Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un conseil de défense sanitaire pour rassurer les Français. Emmanuel Macron réunit ce matin à l'Élysée une partie du gouvernement pour prendre des décisions concrètes dans la lutte contre le coronavirus. On voit ça en détail, Agnès, après les autres titres.
L'épidémie de Covid-19 qui repart également chez nos voisins européens dans ce journal gros plan sur l'Espagne. La crise des vocations chez les jeunes militants Les Républicains. L'Allemagne et l'Union européenne qui exigent de la Russie une enquête transparente sur l'empoisonnement d'Alexei Navalny. Et puis, que vaut vraiment le nouveau Christopher Nolan qui sort demain sur les écrans ? Corinne Pellissier l'a vu en avant-première.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous, Léa.
On avait adoré son premier livre qui parlait des déchirures de l'enfance. On la retrouve avec plaisir avec Du côté des Indiens, écrit avec la même sensibilité sur l'histoire notamment d'une actrice qui connaît la fin de l'innocence. Isabelle Carré sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, à 8h20, Léa. Covid, coronavirus encore, le grand entretien de la matinale avec le directeur général de l'APHP, Martin Hirsch. Il publie L'énigme du nénuphar face au virus, c'est aux éditions Stock. Vos questions dès maintenant, le standard vous attend. 01 45 24 7000.
France Inter. Le Conseil de défense sanitaire, donc ce matin à l'Élysée, à une semaine tout juste de la rentrée scolaire. Les chefs d'établissement attendent des réponses, des précisions, car il reste de nombreuses zones d'ombre. Le ministre de l'Éducation nationale a bien annoncé le port du masque obligatoire à partir du collège. Mais reste la question de la prise en charge financière. Plusieurs élus, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-Seine ou des maires en Île-de-France, ont fait savoir qu'ils fourniraient gratuitement un masque à chaque enfant. Autre question sensible, Alexis Morel, l'organisation de la cantine.
À la cantine, évidemment, on enlève son masque. Alors idéalement, il faudrait limiter le brassage des élèves dans le réfectoire, espacer les cohortes, dit le ministre. Impossible, répond Bruno Bobkiewicz, proviseur et secrétaire national du SNPDEN, syndicat des chefs d'établissement.
Il n'y a pas beaucoup de marge sur le fonctionnement de la demi-pension, dans la mesure où on est déjà dans de nombreux établissements sur plusieurs services. Donc on mange entre 11h30 et 14h. Donc s'étaler davantage, ça ne va pas être possible. Il n'y a pas d'autre marge en termes d'organisation, sauf à inciter les familles à ne pas forcément manger à la cantine. Je pense notamment aux collégiens qui habiteraient en proximité, à qui on pourrait dire dans un premier temps, est-ce qu'il vaut mieux pas déjeuner à la maison ?
Mais il faut tout de même des règles claires pour rassurer les parents, selon Agnès Lebrun, référente éducation à l'Association des maires de France, les mairies chargées des cantines dans les écoles.
Il est essentiel que les parents soient en confiance et si on leur dit, bah, finalement, ils vont prendre leur repas comme si de rien n'était, alors même que dans d'autres circonstances de la vie, on va leur imposer des règles concernant dans les masques par exemple, évidemment ça va brouiller le message. Donc c'est nécessaire d'avoir un protocole clair.
Car dans le protocole actuel, la cantine n'est mentionnée qu'une fois, simplement pour indiquer que les tables sont désinfectées après chaque service.
Le Conseil de défense va donc tenter de répondre à toutes ces questions d'organisation dans les établissements scolaires, mais aussi les entreprises et les transports. Ce conseil se tient ce matin à l'Élysée en présence du Premier ministre et d'une partie du gouvernement. D'autres participeront en visioconférence. Sur la table notamment les derniers chiffres de la Direction Générale de la Santé. 1955 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le chiffre est en baisse, mais 22 foyers de cas groupés détectés. 4690 malades hospitalisés, dont 399 en réanimation. L'Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont particulièrement touchés, ce qui a conduit l'Allemagne à classer ces deux territoires comme zone à risque, déconseillant à ses ressortissants de s'y rendre et imposant à ceux qui en reviennent un test de dépistage. Il faut dire que l'Allemagne doit faire face à une augmentation du nombre de contaminations. Plus de 1200 nouveaux cas en 24 heures. C'est le cas également en Espagne, avec près de 6000 nouveaux cas quotidiens et des hospitalisations multipliées par 10. Correspondance à Madrid, signée Ilan Ballestero.
L'heure est à l'inquiétude en Espagne. Dans la plupart du territoire, les cas ne cessent d'augmenter inexorablement. Les réunions de famille et les jeunes adultes sont dans la ligne de mire des autorités espagnoles, les principaux touchés désormais par le Covid-19. D'ailleurs, le profil des personnes contaminées a considérablement changé ces derniers mois, comme l'a rappelé hier Fernando Simón, l'épidémiologiste porte-parole du gouvernement espagnol pour le Covid-19.
L'âge moyen a beaucoup baissé, en passant de 63 ans au plus fort de la pandémie à 38 ou 39 ans actuellement. Et sur les 2-3 dernières semaines, on descend même à 35-36 ans. C'est positif car ce sont des personnes qui ont moins de risques d'être parmi les cas graves. Et on assiste quand même à une hausse très importante du nombre de patients jeunes. Alors même si proportionnellement le nombre de ces cas graves est très réduit dans ces tranches d'âge, ils vont forcément continuer à se produire.
Depuis la fin du confinement en Espagne, on observe un certain relâchement des comportements, notamment parmi les jeunes, ce qui a poussé les autorités à refermer les discothèques et autres lieux de loisirs nocturnes le 14 août dernier, en provoquant la colère des professionnels du secteur. Des mesures pour tenter d'endiguer la résurgence de l'épidémie, mais pour l'heure, la plupart des indicateurs restent dans le rouge. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
A signalé également les premiers cas de Covid-19 détectés dans la bande de Gaza au sein d'une même famille. Un confinement total a été instauré pour 48 heures. Crise sanitaire oblige, l'annonce du plan de relance économique a été reportée. Mais ce matin, Bruno Le Maire annonce dans Les Échos une enveloppe de 10 à 15 milliards d'euros spécifiquement consacrée aux PME avec des prêts à long terme et à taux très bas pour les petites entreprises. Et puis rappelons que demain matin, le Premier ministre Jean Castex sera l'invité exceptionnel de France Inter à partir de 8h20. Il est 7h06 sur Inter. C'est déjà la rentrée chez les Républicains. Une rentrée en ordre dispersé. Samedi pour Bruno Retailleau à la Baule. Dimanche pour Valérie Pécresse dans l'Essonne. Avant un rassemblement unitaire début septembre à Port-Marly dans les Yvelines. Pour tous, un objectif, mobiliser la jeunesse. Mais ces dernières années, Jeanne Dossé, les moins de 30 ans ont été nombreux à quitter le navire.
Il est loin, très loin, l'âge d'or des jeunes républicains, ex-jeune pop réunis dans ce clip en 2009. Jusqu'à 30 000 jeunes militants sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Le parti parle aujourd'hui de 5 000 grand maximum. Les jeunes républicains ont perdu leur influence, regrette Geoffrey Carvalinho, leur ancien secrétaire général.
Beaucoup d'idées qui étaient produites chez les jeunes, on les a ressenties dans le débat parlementaire. On était vraiment en plein cœur des campagnes électorales.
La camaraderie est aussi moins marquée. Nicolas, 22 ans, est militant depuis 2014 dans le Val d'Oise.
Premier événement où je suis allé, c'était un bowling. C'était des événements comme ça qui sont sympas, qui permettent de se rassembler, cette ambiance, des gros campus qui étaient organisés. Effectivement, on peut être que nostalgique devant ces images.
Les jeunes républicains minés aussi par les accusations d'agression sexuelle contre leur président, le bureau le somme de démissionner. Ajoutons la présidentielle de 2017 et l'absence d'une figure qui rassemble. Pierre-Henri Dumont, député et secrétaire adjoint des Républicains chargé de la jeunesse.
Plus tôt, nous allons avoir notre candidat à l'élection présidentielle. Plus facile sera le recrutement de nos militants, jeunes ou moins jeunes, parce qu'on a aussi pour soutenir un projet porté par une personnalité.
En attendant, objectif atteint pour l'université d'été, dit le parti. Un peu plus d'un millier de jeunes républicains sont attendus à Port-Marly, dans les Yvelines.
Et le président des jeunes républicains, Aurane Réagnon, accusé d'agression sexuelle par une militante, s'est en effet retiré de la scène médiatique à la demande du parti. Politique encore, Gérald Darmanin démissionnera samedi de son mandat de maire de Tourcoing. Son successeur sera élu lors d'un conseil municipal dans le courant du mois de septembre.
Il est 7h08, l'enquête sur l'empoisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny.
Berlin, où le malade est toujours hospitalisé dans le coma, demande à Moscou une enquête transparente. Les médecins russes maintiennent, eux, qu'ils n'ont pas trouvé les mêmes substances toxiques que leurs homologues allemands. Mais en Russie, les opposants au régime savaient dès le départ à quoi s'en tenir. Claude Brouillot est le correspondant permanent de France Inter à Moscou.
La confirmation de l'empoisonnement d'Alexei Navalny ne les a pas surpris. Critiques réguliers du système russe, ils savent depuis longtemps qu'ils sont exposés à des degrés différents, comme Zvoya Zvetova, journaliste pour le site indépendant MBA Media.
Bien sûr que même moi, je connais les risques que je peux avoir, mais je ne représente pas un grand danger pour le pouvoir russe qui est composé par des représentants de services secrets qui ont dans leur gène cet esprit de la peur devant l'opposition, peuvent organiser une révolution, une sorte de Maïdan comme en Ukraine, comme en Biélorussie.
Certains critiques virulents du pouvoir russe ne sont pas sûrs que la menace vient uniquement du côté politique, tant les intérêts sont parfois entremêlés. Yuri Fedoutinov, ancien directeur de la radio indépendante Écho de Moscou.
Les gens sont parfaitement conscients. On se demandait pourquoi Navalny n'a pas été encore attaqué. Le coup peut venir de n'importe où.
Yuri Fedoutinov rajoute à propos de l'empoisonnement d'Alexei Navalny qu'il s'attaquait aussi à de puissants groupes, en reconnaissant toutefois que son absence va bénéficier au pouvoir et risque de poser la question de la relève dans l'opposition russe. Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
Vive tension dans les rues de Kenosha, dans le Wisconsin, après une apparente nouvelle bavure policière. Un homme noir a été blessé de plusieurs coups de feu tirés dans son dos par un policier blanc. La scène a été filmée et provoque l'indignation. Plusieurs centaines de personnes manifestent en ce moment. Malgré le couvre-feu, des gaz lacrymogènes ont été tirés sur les manifestants. D'autres rassemblements ont lieu dans plusieurs villes des États-Unis. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. C'est l'heure de la rentrée pour Greta Thunberg. La jeune Suédoise est de retour sur les bancs de l'école après après une année sabbatique à la sortie du collège consacrée à la défense de la cause du climat dans le monde. Retour en France avec l'incendie d'Istres dans les Bouches-du-Rhône. Les flammes ont parcouru plus de 500 hectares. 1300 pompiers ont lutté toute la nuit pour protéger plusieurs centaines de maisons et des centres équestres. Le pire a été évité, estime ce matin le lieutenant-colonel Nicolas Faure. C'est lui qui coordonne les opérations des sapeurs-pompiers.
Le feu n'est pas éteint, il a été fixé dans la nuit hier soir. Par contre, nous avons poursuivi des opérations de noyage qui vont se poursuivre toute la journée afin de sécuriser les lisières, c'est-à-dire de procéder à l'extinction et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reprise de feu. Puisque comme vous venez de le dire, la température va augmenter, il va y avoir quand même un petit peu d'air et un vent qui sera différent de celui d'hier. Donc il faut absolument sécuriser ce feu qui est important, plus de 300 hectares. Sur une enveloppe globale de 500 hectares. Donc un travail de fourmi, mètre par mètre, pour éviter toute reprise de feu.
Des propos recueillis par Camille Payan de France Bleu Provence. Enfin, c'est le film qui est censé ramener les spectateurs dans les salles de cinéma. Mais que vaut Tenet de Christopher Nolan qui sort demain sur les écrans? Des avant-premières ont eu lieu hier un peu partout en France. Et si les amateurs seront ravis côté spectacle, Corinne Pellissier, l'intrigue, elle, reste assez obscure.
Christopher Nolan est le premier à en rire à travers les questionnements de ses personnages, John David Washington et Robert Pattinson. Il ne sera pas simple d'appréhender toutes les subtilités du film, sans un diplôme de physique. Tenet est à l'image de ce très bon conseil délivré par Clémence Poésy au tout début de l'intrigue. Ne cherchez pas à comprendre, mais plutôt à ressentir. Car si les éléments traditionnels d'un bon film d'espionnage sont là, un agent ramené à la vie pour empêcher une attaque venue du futur, c'est la temporalité de l'action qui fait une nouvelle fois la différence. Pas de rêve emboîté ici à la manière d'Inception, mais une dimension qui dépasse le temps avec des scènes qui se déroulent à la fois dans le présent, le passé, le futur. Preuve, selon Nolan, qu'il est bel et bien possible d'inverser la courbe du temps. Le scénario n'est pas toujours facile à suivre, mais le réalisateur s'initie à un film audacieux original aux effets visuels et sonores hypnotisants, des courses-poursuites dans des voitures qui roulent à l'envers, un crash d'avion dans un entrepôt et un méchant Kenneth Branagh, digne des plus grands James Bond.
Voilà, Tenet de Christopher Nolan, demain au cinéma, à vous de vous faire votre opinion.
Merci Agnès Soubiran.